à midi, on aime l'été. Bonjour à vous toutes et vous tous, nous sommes le 6 septembre 2017. C'est donc une nouvelle fois Aime l'été animée pour vous par Clotilde Seil et très heureuse encore aujourd'hui d'avoir des invités autour d'elle ou encore au téléphone avec des sujets tous très différents et tous, ma foi, fort passionnants. Par exemple, Serge Bradet est déjà en studio et je lui avais donné une mission, un mandat. Mon petit Serge, bonjour. Je lui avais dit, vous qui adorez l'histoire, faites-nous donc un petit historique de la chirurgie des yeux et il nous arrive avec ça maintenant, donc juste après les nouvelles du jour. Également à l'émission, on retrouve avec un grand plaisir Michel Bédard, producteur et animateur de l'émission Les Capés sur CKIA à Québec et qui nous parle des activités de la rentrée dans notre bonne vieille capitale. Également, nous aurons droit à un bloc sport, une chronique de sport avec Émilie Bouchard-Labonté. Il sera question de paracyclisme, du retour sur la performance des Québécois quoi en Coupe du Monde et on essaiera de comprendre un peu mieux les catégories du paracyclisme. Et puis pour finir, Jean Lambert, ex-président de la Chambre des notaires et qui siège maintenant, vous le savez, au comité sur les soins de fin de vie, eh bien il a tellement apprécié être avec nous durant cette saison qu'il a dit « Oh, j'aimerais ça, vous trouver un autre sujet et venir vous parler pour vous faire une autre chronique. » Et aujourd'hui, ce sera le système professionnel québécois. Alors, quelques nouvelles, bien sûr, pour commencer ce magazine. Aide médicale à mourir, la bataille judiciaire avance lentement. Justement, je pense que les oreilles de notre ami Jean Lambert vont lui siffler pas mal. Deux personnes malades qui contestent les lois fédérales et provinciales sur l'aide médicale à mourir estiment que les gouvernements canadiens et québécois tente d'étirer indûment les procédures judiciaires. Le procureur général du Canada a annoncé son intention de faire entendre une dizaine d'experts dans le cadre de la contestation judiciaire qui se déroule au Palais de justice de Montréal, écrit Geneviève Garon, sur le site ici radiocanada.ca. Nicole Gladu, qui souffre de graves séquelles de la poliomyélite, a exprimé son indignation mardi à la sortie de la salle d'audience. Selon elle, les nombreuses expertises demandées par l'avocat qui représente le procureur général du Canada sont superflues et ne visent qu'à refaire le débat qui a déjà été tranché par la Cour suprême. Les deux Québécois ont intenté un recours judiciaire en juin dernier après s'être fait refuser l'aide médicale à mourir puisqu'ils ne sont pas, entre guillemets, mourants. Ils estiment que ce critère, ajouté à la fois dans la loi fédérale C-14 et dans la loi québécoise concernant les soins de fin de vie, est restrictif et ne respecte pas ce qui a été établi par la Cour suprême dans l'arrêt Carter en février 2015. Or, la bataille devant la Cour supérieure s'annonce longue. Le procureur général du Canada veut faire entendre 13 experts pour démontrer que les lois n'enfreignent pas la Charte canadienne des droits et libertés. Selon la liste préliminaire consultée par Radio-Canada, l'avocat du ministère de la Justice canadien, David Lucas, souhaite appeler un psychiatre expert en bioéthique et un psychologue sur la question des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, un psychiatre sur la question des aînés, deux experts sur la situation des personnes avec un handicap physique ou intellectuel, un psychiatre ou autre expert au sujet des autochtones, un médecin en soins palliatifs sur les alternatives à l'aide médicale à mourir, un psychologue sur l'intervention face au suicide et à son rapport avec l'euthanasie, deux professeurs en droit comparé, un médecin hollandais, ancien membre du comité désigné pour surveiller la pratique de l'aide médicale à mourir, un médecin psychiatre américain, expert en bioéthique, qui a étudié la pratique d'aide médicale à mourir en Belgique. L'avocat du ministère de la Justice du Québec, Mario Normandin, pourrait aussi ajouter d'autres noms de témoins d'experts. L'avocat qui représente Nicole Gladu et Jean Truchon se questionne sur la pertinence d'entendre des experts sur la communauté, entre autres des communautés autochtones ou des personnes avec un handicap intellectuel, alors que cela ne s'applique pas au présent dossier. Selon maître Jean-Pierre Ménard, la seule question sur laquelle la Cour supérieure doit se pencher est celle des critères de fin de vie et de mort raisonnablement prévisibles. Toujours sur le site de iciradiocanada.ca, les aidants naturels britannico-colombiens sont de plus en plus déprimés et fâchés. De plus en plus d'aidants naturels ressentent de la détresse malgré le soutien professionnel reçu à la maison, selon un rapport de la représentante des aînés de la Colombie-Britannique dévoilé mercredi. Chez certains, ce sentiment est tel qu'ils sentent qu'ils ne réussissent plus à remplir leurs responsabilités. Plus de 31% des aidants dans cette catégorie ressentaient de la colère ou étaient déprimés, selon ce rapport, qui se base sur des données de 2016. En 2015, 29% d'entre eux se sentaient ainsi. Le rapport note également que le soutien disponible pour ces aidants est moins facilement accessible qu'il y a 2 ans. La représentante aux aînés, Isobel McKenzie, estime qu'il s'agit d'une tendance dérangeante. La fragilité et la complexité des cas de ceux de qui on s'occupe à la maison augmentent et le soutien et les services qui peuvent changer la situation de façon décisive pour les aidants ne suivent pas le rythme, affirme-t-elle. Le document précise s'être concentré sur les 26 310 aidants naturels qui ont reçu des prestations publiques pour l'aide à la maison. D'après le dernier recensement de Statistique Canada, la Colombie-Britannique compte certaines des communautés les plus âgées du Canada, avec 4 municipalités ayant le plus d'aînés au pays. Un non-voyant malentendant dénonce les propriétaires qui refusent son chien Mira. C'est un papier de Shane Yalley dans le Journal de Montréal. C'est un homme non-voyant et malentendant qui est de Drummondville et qui vit avec un chien Mira de 4 ans. Et il dénonce les propriétaires qui lui refusent de lui louer un logement à cause de son animal. Marc Bisson veut déménager dans un appartement à Drummondville, dans le centre-sud du Québec, avec sa famille et son chien. Il s'est vu donc refuser cette location sous prétexte que les chiens sont interdits, même s'il s'agit d'un chien Mira. Un autre propriétaire lui a demandé un dépôt de garantie au cas où le chien cause des bris dans l'appartement. Le chien guide sert de moyen de pallier un handicap et il est reconnu par les tribunaux québécois. Monsieur Bisson se dit victime de discrimination en raison de son chien. C'est comme si à chaque fois, ça me ramène mon handicap en pleine face. Mon chien fait partie de moi, il m'aide et c'est très frustrant. A déposé Monsieur Bisson qui a déposé une plainte à la commission. A déploré, pardon, Monsieur Bisson qui a déposé une plainte à la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et puis dans le reflet, le sport change la vie d'un petit autiste. Il est de Sainte-Catherine. Il est autiste Asperger avec TDAH et impulsivité. Rien de détectable à première vue, au dire de ses parents. Ceux qui ne connaissent pas sa condition peuvent même penser qu'il est plutôt très mal élevé. Or, il n'en est rien. Zachary a des problèmes d'habileté sociale parce qu'il n'a pas les mêmes codes que les autres et qu'il ne les détecte pas de la même façon, explique son père, Steve Laurin. Ce qu'ils ont trouvé comme solution, le faire jouer au football américain. Sur le terrain et sur la glace, il dépense de l'énergie et ça, et il ne se fait pas juger. Quand mon fils se fait pointer du doigt, c'est rarement positif de dire sa mère avec émotion. Dans le sport, il est très valorisé et il est fier de ça. Je pense sincèrement que ça change sa vie. Zachary Laurin, c'est le nom de ce jeune, est un féru d'échecs et pour lui, la partie de football est un jeu d'échecs géant. Secondeur de ligne au niveau Atom, le jeune garçon a obtenu le prix du défenseur de l'année la saison dernière. Vous savez qu'au football, les systèmes de jeu sont assez rigides, il n'y a pas 56 façons de les exécuter, et ça, ça lui plaît. Au quotidien, il faut savoir que le Sainte-Catherinois n'accepte pas qu'on le touche, mais lors des matchs, il comprend que ça fasse partie du jeu, du coup, il s'assouplit. Chose, évidemment, que ses parents voient d'un très bon œil. Et puis, l'été, c'est aussi l'occasion d'apprendre des choses qu'on ignore. Et nous avons l'homme tout désigné en la personne de Serge Bradet, qui n'est pas historien de formation, mais qui l'est de passion, par exemple.
Qui a toujours aimé l'histoire.
Approchez-vous un petit peu de votre micro, mon ami. Voilà. Puis regardez, remontez-le un petit peu et tout ça. Tout va très bien se passer. On va tellement mieux vous entendre.
Ah, voilà.
Cette voix magnifique que vous avez, que nous voulons entendre. Alors là, je vous ai mis, mon ami, sur une piste. Absolument. De la chirurgie des yeux. Mm-hmm.
Et merci, ça a été très intéressant ce que j'ai découvert. Mais savez-vous,
non.
Quand a eu la première opération des yeux?
Mais
Très loin. On parle de 4000 ans. 2000 ans avant Jésus-Christ, donc 4000 ans de notre ère, en Égypte.
Vous me voyez quoi?
Quoi? Évidemment, et bon, il y a pas de, on ne connaît pas le nom du médecin de l'époque qui aurait fait ça, mais on a retrouvé ça dans des tombeaux, sur un, j'imagine un hiéroglyphe qui dessinait, qui parlait de ça. Alors évidemment, c'est beaucoup plus récent, on va dans les années 1700 après ça, là où ça s'est... Alors je vous lis un texte que j'ai trouvé, qui est écrit par Vincent Roche et édité par Emmanuel Ducreuset, c'est la rubrique Histoire de la médecine. Alors ça commence par une très belle citation, « Soigner l'œil malade, c'est chercher à vaincre les ténèbres ». Un défi permanent qui appelle toujours plus de connaissances, de moyens techniques, de performances. Oui. Ça, c'est à 82 ans, le professeur Yves Pouliquen n'a rien perdu de sa passion pour la spécialité qu'il a exercée toute sa vie, l'ophtalmologie. Ce membre de l'Académie nationale de médecine, mais aussi de l'Académie française, reste émerveillé de cette discipline qui, même si elle ne date pas d'hier, est toujours en évolution. À tel point que notre époque s'est révélée plus riche pour l'ophtalmologie que toutes celles qui l'ont précédée. Cet éminent spécialiste nous compte ainsi quelques-unes, à ses yeux, des plus grandes avancées des 30 dernières années. Dire que la naissance de l'ophtalmologie n'est pas récente révèle de l'euphémisme. Nous avons des traces dès le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, comme je vous le disais, explique Dr. Pouliquen. Il semblerait en effet que le premier document faisant mention de la discipline et de la cataracte en particulier, soit le papyrus de Carlsberg, rédigé en hiératique et démotique. Pour Yves Pouliquen, l'ophtalmologie a débuté avec la chirurgie générale. En 1731, Louis XV inaugure l'Académie royale de chirurgie à Paris. Y sont alors pratiquées diverses opérations, dont le traitement des cataractes. Il faudra attendre la fin du 18e siècle pour qu'elle commence à s'émanciper. À la moitié du 19e siècle, l'ophtalmologie devient une discipline indépendante. Mais les prémices sont consacrées uniquement à la cataracte et aux infections les plus évidentes. En 1957, lorsque j'ai embrassé la discipline, Pouliquen qui nous parle, cette dernière était encore très empruntée du siècle précédent. À titre d'exemple, lors d'opérations de décollement de la rétine, nous avions de 50 à 66 % d'échecs, donc autour de 40 % de réussite seulement.
Dans quelles années, ça?
Les années 1957, lunettes, loupe chirurgicale, exploration de l'œil, tout cela était très rudimentaire. Et une excellente connaissance clinique était nécessaire pour parvenir à un diagnostic précis. De 1970 à 1975, l'ophtalmologie se transforme. C'est à partir des années 1970 que la technologie s'est montrée des plus efficaces, se réjouit le docteur Pouliquen, alors aux premières loges. Et la chirurgie de la cataracte en est sans doute l'une des plus emblématiques.
Ah oui.
Elle consiste à ôter un cristallin opaque et à restituer ainsi la vision. Et si aujourd'hui c'est l'acte le plus répandu, cela n'a toujours pas été le cas. C'est en 1948 que fut réalisée par l'ophtalmologiste français Jacques Daviel, la première opération de la cataracte par extraction du cristallin, alors que jusqu'alors, il était abaissé dans l'œil, libérant la pupille et n'étant pas extrait de celui-ci.
Ah,
donc,
oui.
Il restait, oui.
Autrement dit, on le mettait en bas. Oh, ben allez, on va te mettre de côté, on va te mettre dans le placard.
Vraiment, ouais. Alors, peut-être que ça remontait aussi à un moment donné, je ne sais pas. Bon. Il fallut tout le 19e siècle pour que la méthode d'extraction évolue. Et ce n'est qu'en 1975 qu'un Américain, Charles Kellman, invente un procédé moins agressif permettant de substituer à une large incision une ouverture de l'œil plus limitée de 2 à 3 mm seulement permettant d'agir sur le cristallin. Voilà qui permet d'introduire dans l'œil une sonde à ultrasons. Le cristallin est alors fragmenté puis aspiré. Un implant est ensuite introduit. C'est ce qu'on appelle la facoémulsification.
Oui, je comprends qu'on, voilà. je comprends qu'on puisse hésiter un peu.
Oui. Puis je l'avais quand même pratiqué. Bien entendu, à l'époque, les incidents liés aux implants et à la manière d'implanter ne sont pas rares, concède le docteur Pouliquen. Mais depuis, la technique a considérablement évolué. Les implants, rigides à l'origine, sont désormais la plupart du temps souples, donc pliables et adaptés aux courtes incisions. L'intervention dure aujourd'hui de 20 à 30 minutes, en ambulatoire, sans suture. L'agression opératoire est réduite au minimum, nous restituons une fonction normale à l'œil et de façon quasi immédiate, un petit miracle.
Ah oui, en ce moment, maintenant, c'est fou.
On est donc loin de l'important traumatisme infligé à l'œil autrefois, de la longue hospitalisation imposée aux patients et de la qualité médiocre de la vision obtenue, il faut le dire. Aujourd'hui, l'opération est devenue routinière sans être toutefois dépourvue de certains aléas. Chaque année en France, plus de 600 000 cataractes sont ainsi traitées.
Ah oui.
Et beaucoup, hein?
600 000, oui, ça ne me surprend pas. Remarquez, ici, c'est assez important, c'est comme volume, c'est fou.
J'ai pas
maintenant, ça va tellement vite que c'est quasiment au suivant, quoi, j'ai l'impression.
Ah ben absolument, oui, oui.
Non, mais c'est fou.
Oui, oui. La chirurgie de la rétine, d'approximative à remarquable. Une autre affection, le décollement de la rétine, a vu au cours des 30 dernières années son pronostic se transformer. Affection redoutée autrefois, elle trouve désormais des solutions très rassurantes. Relativement rare, ce décollement peut survenir chez quiconque, mais plus généralement parmi les myopes. La raison en est la survenue d'une déchirure rétinienne d'origine diverse conduisant à l'accumulation entre les feuillets rétiniens de liquide provoquant ce décollement. Des symptômes en signalent l'apparition. Les symptômes, voient le soudain éclair zébrant le champ visuel. Le risque sans intervention rapide est de perdre toute vision de l'œil. La chirurgie réfractive et de la fiction à la réalité, voilà une technique qui, il y a encore quelques années, révèle de la science-fiction. La chirurgie réfractaire, qu'on appelle la chirurgie au laser, permet de corriger les défauts de vision de patients atteints de myopie, d'hypermétropie, d'astigmatisme et de presbytie. Elle a été initiée dans les années 70 par un audacieux chirurgien russe, Sviatoslav Fyodorov.
Bravo!
Bravo! Ce dernier a repris une idée vieille d'un siècle qui avait montré qu'en incisant la cornée et ainsi en l'aplatissant, on corrigeait la myopie. Alors, bien entendu, tous ces progrès ne sont que la partie émergée de l'ophtalmologie. Nous pourrions y passer des heures, s'amuse l'intéressable Yves Pouliquen. J'aurais pu vous parler, dit-il, de la prise en charge de la rétinopathie diabétique, combinant l'usage au laser et de la chirurgie, ce qui permet de conserver une vision utile chez les patients condamnés à la cécité. J'aurais pu vous parler de grève de cornée, du vieillissement de la population qui nous a contraints à nous pencher sur de nouvelles pathologies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et bien entendu des progrès des lunettes qui ont gagné en confort et en esthétisme, ou encore les lentilles de contact toujours plus souples et plus fines.
Êtes-vous en train de nous dire qu'on va être obligé de rajouter une semaine encore à MLT pour que vous puissiez revenir nous parler de tout ça?
Ben, j'aimerais ça. Mais écoutez, comptez-vous ajouter une semaine?
Vous savez où c'est, Louise Bien, au fond du couloir à gauche. Louise Bien, lui, au fond du couloir à gauche. Merci beaucoup. Non, c'est parce que c'est vrai que là, on a beaucoup parlé cataracte et tout ça, mais il y a myopie, mais il y a tous ces gens, par exemple, qui sont en train de perdre la vue de façon irrémédiable. Et je trouve qu'en 2017, on est, j'allais dire, un peu en retard. Parce que je me demande si ce n'est pas encore, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais finalement, il y a certaines conditions médicales, oculaires, qui font que malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup avancé. Puis que quand on voit le nombre... Et en plus, et ça, je suis certaine aussi que c'est un sujet que M. Pouliquen, qui doit intéresser beaucoup M. Pouliquen, c'est le fait que les mômes ont constamment les yeux sur un écran. Remarquez, dit la fille qui a les yeux constamment sur un écran du matin au soir, et qu'à un moment donné, mais enfin... Mettons qu'à mon âge, mais à 10 ans, 12 ans, il me semblerait que les résultats que cela va engendrer, on ne les connaît pas encore complètement, mais on va avoir
ça dans 20 ans.
Ben, nous, 10, on ne sera plus là.
Mais, non, c'est ça, oui, mais...
Donc, ils vont s'arranger avec leurs troubles. Hein. On en a eu aussi. Merci, Serge Bradet.
Plaisir.
Merci. Thank you. Et si on allait voir un petit peu tout ce qui se passe dans notre bonne vieille capitale, à Québec? Bonjour, cher ami Michel Bédard, comment ça va?
Bonjour, très bien, ça va très bien.
Bon, merci, je vais bien aussi, Michel. Je vous remercie d'être là une nouvelle fois aujourd'hui pour nous parler un petit peu des activités de la rentrée à Québec, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire hein, là-bas, et des choses accessibles.
En fait, il y a toujours plein de choses à Québec
ça
à
bouge.
Faire. Donc, je vous parle tout de suite d'une activité qui est très peu connue, celle de l'Observatoire de la capitale.
Oui.
Ça se trouve au sommet du complexe G, ou si vous préférez, de l'édifice Marie-Guyard. Mm-hmm. Et cet endroit-là vous permet de voir la ville sur 360 degrés à 221 mètres d'altitude, soit 31 étages.
Oui, OK.
Donc, c'est haut, c'est bien. Donc, ça permet, en temps automnal, parce que je ne sais pas pour Montréal, mais nous, l'automne s'installe très rapidement à Québec.
Oui, c'est aussi. Oui.
Et donc, ça permet de voir un panorama exceptionnel avec les couleurs.
Est-ce que les couleurs sont déjà bien avancées chez vous?
Non, nous non plus. Non, non. Le froid... L'air frais s'installe,
oui, c'est ça.
Mais les couleurs ne sont pas encore...
Non, non, c'est ça. C'est ça. Non, non.
Commence à changer.
Non,
donc,
c'est ça.
C'est une belle activité, pas trop chère et complètement accessible. Je vous donne les tarifs. Ça va autour de 14 $ pour les adultes et c'est gratuit pour les 12 ans et moins.
Ah oui, non, ça vaut le coup.
Et c'est ouvert depuis cette fin de semaine du mardi au dimanche.
Du mardi au dimanche, d'accord.
Oui, du mardi au dimanche.
D'accord.
De 10h à 17h.
Puis là, il n'y a pas besoin de réserver ni rien. On se présente et on y va, hein? C'est
non,
ça?
Non, oui, effectivement, oui. Ben, en fait, si vous êtes un groupe, on peut visiter et faire des visites de groupe. Mais pour ceux qui voudraient être le passage, non, comme je vous disais, c'est ouvert à tous les
d'accord.
jours.
D'accord. D'accord, Michel.
Sans problème.
D'accord, Michel. Parlons art, tiens, culture.
Oui, avec le Musée des Beaux-Arts
qui
nous offre plein de belles expositions. On a par exemple Carl Tran, mm-hmm. parce qu'il y a la nuit, c'est offert jusqu'au 24 septembre. C'est une monographie, la première monographie de Carl Tran sur sa toute première exposition personnelle dans une institution muséale.
Mm-hmm.
Il y a également Le temps file. La vanité de la collection du Musée national des Beaux-Arts,
mm-hmm.
qui, elle aussi, est offerte jusqu'au 24 septembre. Il y a la curiosité qui est offerte jusqu'au 5 novembre. Et évidemment, il y a d'autres expositions qui sont
oui.
offertes en tout temps de manière permanente.
Oui, et je sais que j'avais parlé, pardon de vous interrompre, hein, Michel, mais j'avais parlé cet été, j'espérais bien d'ailleurs pouvoir avoir ici à l'antenne quelqu'un qui nous parle de toutes ces expositions-là au Musée national des Beaux-Arts, surtout que je sais que le musée a fait beaucoup d'efforts pour l'accessibilité.
Effectivement, c'est en fait, tout ce qui est musée à Québec est complètement accessible pour les personnes principalement fauteuil roulant. Je suis moins au courant pour ce qui est des gens qui ont des problèmes d'audition ou ces trucs-là.
Ils ont aussi beaucoup de choses. Ils ont aussi beaucoup de choses. Il y a des expositions. Il faut à tout prix que les gens s'informent. Il y a des expositions qui sont prévues pour des personnes non-voyantes ou avec toucher, etc. Il y a des audioguides, évidemment. En tout cas, il y a vraiment tout est fait là-bas. Puis bravo. Bravo.
Et depuis le 5 septembre, donc depuis hier, tout est ouvert de tous les jours, sauf le lundi.
Mm-hmm.
Il y a des heures variables là, selon les journées, là, mais à tous les jours, à partir de 6h,
d'accord.
Ouvert, sauf le lundi, pour ce qui est du Musée national des Beaux-Arts.
D'accord. Et là, je vais vous le dire tout de suite, parce que j'ai une petite feuille sous les yeux. Je veux que vous nous ameniez tout de suite, on sort de Québec, et vous nous amenez à l'île d'Orléans, ma chère
oui.
île. Et vous nous amenez visiter une ferme?
Oui, effectivement. C'est en fait tout près de la ville, centre-ville de Québec, à peine à 15 minutes.
Mais oui.
Donc, c'est tout près. Vous aurez la chance là, d'aller faire de l'autocueillette. En fait, je vais vous donner le nom de la ferme. C'est la ferme Le Beau Marcon,
oui.
qui est situé donc à l'île d'Orléans.
Oui.
Là, vous aurez la chance d'aller faire de l'autocueillette. Il y a des activités de groupe.
Oui.
Et ils sont, en tout cas, si on se fie à leur site Internet, ils sont très bien organisés pour recevoir les gens en fauteuil roulant.
Fantastique.
Les gens en perte d'autonomie. Ils reçoivent, entre autres, beaucoup de groupes qui viennent des CHSLD.
D'accord.
Donc, c'est quelque chose qui... avec lesquels ils sont habitués de travailler.
D'accord.
Donc, c'est un superbe endroit.
Ils sont où à l'île d'Orléans, Michel? Ils sont dans quelle municipalité?
Donnez-moi un instant.
Parce qu'il y a quand même 6 municipalités, même si on en a vite fait le tour, il faut quand même.
Donc, ils sont à Sainte-Famille de l'île d'Orléans.
D'accord, à Sainte-Famille, OK.
Oui, donc, d'accord. Sur le chemin royal.
Bien sûr. D'accord, très très bien. Et puis écoutez, il nous reste 1 minute 30, un petit peu plus. Je voudrais qu'on retraverse le pont de Lille. Et juste en face du pont de Lille, on ne peut pas les manquer. Il y a les chutes Montmorency. Les chemins ne sont peut-être pas facilement accessibles aux personnes en fauteuil roulant, mais il y a un aquarium.
Oui, ben en fait, l'aquarium, c'est autre chose. Il y a l'aquarium de Québec qui est tout près des ponts de Québec et du pont Pierre-Laporte. Mais... pour ce qui est des chutes de la chute Montmorency, c'est à complètement l'autre bout de la ville de Québec.
Okay.
Vraiment deux opposés. Et puis, c'est un endroit très bien accessible pour ce qui est du bas. En fait, il est difficile en fauteuil roulant de passer du haut au bas, mais il y a moyen de faire quelque chose, qu'on soit en bas ou en haut. Puis,
okay.
Ceux qui ont quand même qui peuvent marcher un peu.
Oui.
Et qui sont capables de monter des escaliers, il y a moyen de monter tout près de la chute Montmorency.
Ah, c'est
donc,
ça, oui, effectivement.
C'est très agréable. Et puis même en bas, s'il y a un vent, il y a moyen de se faire arroser par la chute.
Effectivement.
Et de profiter de l'ambiance de la chute.
Effectivement.
C'est un parc super bien accueilli.
Très agréable.
Ouais,
Michel, il nous reste 15 secondes.
Oui, ça va être. C'est un parc de la CEPAC. Donc, la CEPAC sont très, très accessibles. Il n'y a aucun problème avec.
D'accord. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir fait ce petit tour d'horizon de belles sorties à Québec.
Ça fait plaisir.
Salut. Bel automne à vous. Et on aime l'été toujours. C'est la deuxième partie de cette émission. Et on va parler de sport maintenant avec notre amie Émilie Bouchard-Labonté. Bonjour Émilie.
Bonjour Clotilde.
Bien, comment ça s'est passé les championnats du monde? C'était la semaine dernière, on parle de paracyclisme. Ça s'est passé en Afrique du Sud à Pietermaritzburg.
Oui, je ne sais pas trop comment on va le prononcer, le Pietermaritzburg, en tout cas, quelque chose comme ça. Ceci dit, c'est la ville du vélo en Afrique.
Non, mais attendez, parce que là, j'en ai un qui est mort de rire en face. Mais enfin, l'Afrique du Sud, ça parle anglais là-bas. Donc, ça doit être plutôt Pietermaritzburg que... Ouais, bon. Alors, allons-y avec Pietermaritzburg.
Donc, on s'est en Afrique du Sud, on va s'entendre
bon,
là-dessus.
Bon, allez, on s'entend là-dessus.
Et ville de vélo en Afrique, c'est vraiment un point central du vélo. Et ça ne doit pas être tous les jours qu'on puisse pédaler dans la savane. Et ça a été une bonne chose pour nos athlètes en action au championnat du monde de paracyclisme qui avait lieu la semaine dernière. Avant de parler de ce qui s'est passé pour nos athlètes québécois et canadiens, je voulais parler un petit peu de qu'est-ce que ça mange en hiver du paracyclisme.
Oui.
Pour pouvoir se retrouver un peu dans les différentes catégories.
Merci à vous, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu perdus.
Voilà. Donc, en fait, il y a 4 divisions dans lesquelles on peut courir en paracyclisme.
D'accord.
Donc, et c'est des lettres, c'est des chiffres. Donc, j'essaie d'être le plus clair possible, mais on peut voir qu'il y a quand même une logique derrière ça. Donc, la première division qui existe, c'est la catégorie B pour blind, donc aveugle en français.
Oui.
Alors, dans cette catégorie-là, on court en tandem. Alors, avec un pilote voyant, évidemment, à l'avant, qui tient les guidons, plus un cycliste, un paracycliste qui est derrière, qui peut être non-voyant ou malvoyant.
D'accord.
Catégorie très importante. Toute la communication est très, très importante, puisque, justement, pour pouvoir, pour pédaler au même rythme, de façon synchronisée, attaquer les pentes. Donc, c'est vraiment une catégorie où il faut faire ultra confiance à son pilote.
Oh oui, écoutez, à chaque fois que je vois des images, justement, sur des passages un petit peu difficiles, je me dis, mon Dieu, quelle confiance. J'allais dire aveugle. Mais vous savez, quand on parle... Non, mais c'est terrible, parce que c'est vrai que l'expression veut bien dire ce qu'elle veut. veux dire. Quand on parle de confiance aveugle, on ne peut pas être mieux placé que lorsqu'on est compétiteur aveugle en paracyclisme, quoi.
Exactement. Alors, ça, c'est pour la première catégorie, donc assez simple. Mm-hmm. Ensuite, la deuxième, la catégorie H pour hand bike, donc si on traduit en français, vélo okay. à main. Alors, ça, c'est pour les athlètes qui n'ont pas vraiment l'usage de leurs jambes. Donc, évidemment, d'accord. ils vont actionner le pédalier avec leurs mains. Donc, c'est vraiment des vélos à main, c'est vraiment là très au sol. Donc, oui. Une différente façon de parcourir bien les sûr. Kilomètres. Mais aussi, pour les virages, c'est un peu plus compliqué aussi, puisqu'on est vraiment très au sol. On mm-hmm. les voit moins, on voit moins le parcours arriver. Alors,
ah oui, bien sûr. Bien
ça
sûr.
Peut être. Une certaine difficulté. Tant cette catégorie-là que celle que je vais vous parler ensuite, les C, il y a 5 classes. Donc, on peut être un H1, H2, H3, H4 ou H5.
Okay.
Et ça va vraiment dépendre de la sévérité de l'handicap.
D'accord.
Il va être classifié dans sa division.
Mais là, on comprend que H, c'est toujours pour handbike.
C'est ça. Donc, okay. Les H5, eux, seront les moins handicapés, si on
d'accord.
peut dire comme ça. Et plus que le nombre se réduit
plus qu'on sait d'accord.
que l'handicap est sévère.
C'est important.
Donc, même chose pour les C, qui veut tout simplement dire cycle. Donc, on pédale sur deux roues c'est dans cette catégorie-là. Des vélos là, qui ressemblent pas mal à n'importe quel cycliste qui voudrait pédaler.
Okay.
Mais parfois, avec certaines adaptations, parce que ça peut être un athlète qui est amputé d'une jambe, donc oui. va pédaler juste à une jambe, ou amputé d'un bras, donc va avoir un guidon différent. Alors, ça va être au niveau de du vélo qui va être différent.
Mm-hmm.
Mais c'est pour ça que ça s'appelle les C-cycles. Et encore à ce moment-là, autant les C5, la sévérité de l'handicap va être plus léger que un C1, par contre.
Mais j'ai une question qui va peut-être vous sembler idiote, mais vous qui voyez beaucoup de ces athlètes et qui les connaissez bien, même personnellement, mais lorsqu'on parle, par exemple, d'une personne handicapée parce qu'elle a été amputée d'une jambe, les gens ne font pas, à ce moment-là, du vélo avec une prothèse, comme on connaît, par exemple, pour la course?
En vélo, je dois vous dire, c'est moins fréquent.
C'est
moins fréquent. Les images que j'ai en tête, là, ça va vraiment être des athlètes qui vont, oui, ils vont avoir une prothèse, mais qui ne pédaleront pas avec ces prothèses-là. Ils vont
okay.
vraiment pédaler juste une jambe.
Okay.
Mais ça veut pas dire nécessairement que ça ne pourrait pas exister. Visuellement, mm-hmm. là, j'en ai peut-être vu, mais ça ouais. m'a moins marqué que...
Je comprends. Mais si vous n'en avez pas vu, déjà, ça me donne une sérieuse information. Et une bonne réponse à ma question. OK, alors on continue avec donc les C. On parlait justement d'amputation ou de dysfonctionnement neurologique, par exemple. C'est bien ça?
Oui, exactement. On a une athlète comme Marc-Claude Molnar qui,
oui.
qui est chez les C4. Elle n'a pas vraiment de malformation, elle n'a pas vraiment d'amputation, mais c'est à la suite d'un accident de voiture là, et au niveau au neurologique là, que c'est plus difficile au niveau de la stabilité et tout ça. Donc, c'est la raison
c'est
pour laquelle elle est classée C4.
Oui,
donc,
on l'avait reçue. Non, c'est
oui?
ça, je comprends. Oui, on l'avait reçue, Marie-Claude. Et quelle fille charmante et fantastique. Ah,
oui.
On avait été très, très, très touchés par sa présence en studio, vraiment. Allez, j'arrête de vous interrompre.
Non, il n'y a pas de problème. Donc, la dernière catégorie, qui est les tricycles pour
oui.
T, en fait. Et ça, c'est pour une catégorie pour les athlètes, en fait, une division pour les athlètes qui ont des handicaps neurologiques ou des membres inférieurs ou supérieurs qui ne peuvent pas rouler sur deux roues.
D'accord.
Donc, il y avait des problèmes neurologiques qu'on peut retrouver dans la division C, mais là, c'est dans la division T, c'est un peu plus élevé comme problème. Et la raison pour laquelle on ajoute une troisième roue, mais c'est justement parce qu'on n'est pas capable de rouler de façon équilibrée là,
oui.
sur deux roues. Donc,
oui,
on en ajoute
oui,
une
oui,
troisième.
Oui, oui. Bon.
On a une très grande athlète aussi, Marie-Ève Croteau, qui fait partie de
oui,
cette catégorie québécoise.
Alors, comment ça s'est passé pour nos athlètes alors aux mondiaux alors?
Ben, ça s'est pas mal passé, notamment pour Charles Moreau, qui évolue chez les H3, si vous m'avez
oui.
dit. H3, ça veut dire quoi?
Alors, H3, c'est le handi, handi vélo, comment vous appelez ça? Donc, c'est avec les mains. Et
oui,
puis, comme il est de la catégorie 3, ça veut dire que, c'est par échelle de valeur. Alors, 5, on n'est pas trop atteint, c'est pas trop sévère. Donc, 3, c'est quand même...
Au milieu, on va dire.
On est au milieu.
On
est dans le médium saignant.
Voilà.
Bon.
Donc, Charles Moreau de Victoriaville, belle médaille de bronze qui a qu'il a obtenu au contre-la-montre.
D'accord.
C'était sa première médaille de sa carrière en championnat du monde, si on recule un an en arrière. Mm-hmm. Plus qu'un an, mais presque un an jour pour jour, parce qu'on était, c'était les Jeux paralympiques de Rio à cette période de l'année dernière. Mm-hmm. Charles avait gagné 2 médailles aussi aux Jeux paralympiques. Alors, belle petite continuité pour lui qui avec cette médaille de bronze, malgré quelques problèmes techniques et mécaniques. Là,
oh non!
Ça a été un petit peu difficile sur son vélo, mais ça en est quand même très bien tiré. J'ai fait aussi une 7e place à l'épreuve sur route.
D'accord, OK. Et alors, tiens, puisqu'on parlait de Marie-Claude Molnar, alors qu'est-ce qui s'est passé pour elle?
Elle, ben, chez les C4, elle a pris une 5e place au contre-la-montre, puis elle a fini 6e à la course sur route. Bon. Donc, quand même, des bons résultats pour
elle. Des bons résultats, parce que là, je me souviens qu'on s'était quitté en disant, allez, une victoire avec ça. Ben, j'espère qu'elle ne sera pas trop déçue, mais non, c'est déjà fantastique quand même, 5e et 6e.
Oui, est-ce que vous avez. C'est sûr qu'elle était déçue un peu, mais
elle était déçue.
Elle était au hasard à sa préparation.
Non.
Donc, était vraiment, je veux dire, c'était mon mi-amère, comme on le dit souvent.
Oui, c'est ça.
C'est sûr que quand on est si près d'une médaille, une 5e, on est vraiment pas loin. Elle a connu des très bons mondiaux sur piste au mois de mars. Alors, c'est un très bon début de saison pour elle. Bon. Mais c'est le début du prochain cycle paralympique et je sais pas si elle vous l'a dit, mais je pense bien qu'elle se rendra jusqu'à Tokyo. Alors,
que du
bon à venir. Là,
d'accord. Elle. Et puis, pour terminer, est-ce qu'il y avait d'autres performances que vous aimeriez souligner pour nous aujourd'hui?
Mais chez les Québécois, la Québécoise Nicole Clermont, qui a quand même bien fait aussi chez les C5, une 7e place à la course sur route et une 8e au contre-la-montre. Mais je l'ai quand même, en terminant, là, mentionné que le Canada a quand même terminé 4e au classement des nations à ces championnats-là.
Ah, c'est bien.
Une médaille d'or, une d'argent, une de bronze. Et on a 2 Canadiens là, qui ont vraiment très bien fait, Tristan Chernoff puis Shelley Gauthier, qui ont fait 2 médailles d'or chacun. Donc, qui ont bien vécu tout le long de ces championnats.
Oh ben bravo. En quelques secondes, parce que je sais que vous écrivez aussi pour l'Union cycliste internationale.
À Sportcom, on écrit plusieurs, on a plusieurs contrats dans l'Union cycliste internationale, mais tout le contenu que vous pouvez avoir au niveau des résultats, allez sur sportcom.qc.ca.
D'accord. D'accord. Eh bien, merci infiniment pour toutes ces bonnes nouvelles, Émilie. Et puis, à partir de maintenant, je vous promets que je ne serai plus aussi perdue lorsqu'on me parlera de toutes ces divisions différentes en paracyclisme. Merci pour tous ces éclaircissements.
C'est quand même assez simple quand
on y pense. Hein. C'est vraiment parce qu'on ne veut pas s'y intéresser. Mais quand on veut s'y intéresser, c'est facile. Hein? C'est comme tout. Merci beaucoup, Émilie. À
bonne
bientôt.
Journée.
Au revoir. Bonne journée. Sand in my shoes. Sand from Havana. Calling me to that ever so heavenly shore. Calling me back to you once more. Dreams in the night. Dreams of Havana. Dreams of a love I haven't the strength to refuse. Darling, the sand is in my shoes. Deep in my veins, the sensuous strains of a soft guitar. Deep in my soul, the thunderous roll of a tropic sea. Under the stars, that was Havana. You are the moonlight memory I can't seem to lose. That's why my life's an aimless cruise. All that is real is the feel of the sand in my shoes.
the sensuous strains of a soft guitar. Deep in my soul, a thunderous roll of a tropic sea under the stars. That was Havana. You are the moonlight memory I can't seem to lose. That's why my life's an aimless cruise. All that is real is the feel of the sand in my shoes, darling, the sand. You are the moonlight memory I can't seem to lose.
Elle avait du sable de la Havane dans ses chaussures. Elle chantait la madame. Le sable qui va se soulever pas mal hein, à Cuba, comme en République, comme un petit peu partout en ce moment. Ça souffle énormément et ça fait des dégâts épouvantables, encore
une
fois.
On est mieux de ne pas être là-bas.
Oui, mais bon, là, je pense à Haïti. En tout cas, ils vont peut-être être relativement épargnés. Mais
espérons-le.
Mais s'il vous plaît. Jean Lambert, bonjour. C'est votre voix que nous entendons. Jean, c'est à titre d'ex-président de la Chambre des notaires que nous vous recevons aujourd'hui. Et on va parler notamment, d'ailleurs, on ne va parler que de ça, quasiment, du système professionnel québécois. Et j'ai une première question qui n'était pas prévue. Est-ce que ça vous embête?
Non, pas du tout. Vous y allez.
Bon, et j'ai peur que ça vous semble un petit peu ridicule, mais...
Pas du tout.
Vous savez que je suis d'origine française et c'est ici que j'ai entendu pour la première fois des gens dire « Moi, je demandais, mais lui, il fait quoi dans la vie? Ah, c'est un professionnel. »
Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ben oui, parce que pour moi, être un professionnel, c'est le contraire d'être un amateur. Mais ça veut pas... Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un professionnel?
Ça vient tout d'abord de la signification du mot professionnel qui dit que quelqu'un qui s'est spécialisé dans un art, une discipline précise, et il l'exerce à l'intérieur d'un encadrement qui assure la qualité du service. Alors... En gros, c'est ce que ça veut dire quand on parle, entre autres, du système professionnel québécois, quand on dit professionnel ici. Remarquez qu'il y a des gens qui sont aussi des professionnels et qui ne sont pas assujettis au code.
Ça.
Alors ça, on va le voir tantôt.
D'accord. OK. Alors donc, si j'ai bien compris, ce sont des gens qui ont étudié dans un domaine et qui professent dans le domaine dans lequel ils ont étudié pour lequel ils sont diplômés.
Et généralement, ils n'ont pas d'autres activités. Ils sont concentrés dans cet art professionnel.
Parfait. Bon, ça m'éclaire quand même. Alors, c'est organisé comment ce système professionnel?
Alors ici au Québec, on parle de système professionnel et d'ailleurs, je dois vous dire que c'est unique au monde.
C'est vrai?
L'organisation professionnelle ici au Québec, elle est un modèle. Alors, ça nous vient de la commission Castonguay-Neveu qui, au début des années 70, avait reçu mission du gouvernement du Québec de regarder comment ça se passait dans le domaine de la santé, les différents intervenants, comment c'était encadré, comment on pouvait assurer la qualité des services en matière de santé. Et la commission Neveu, elle a accouché d'un rapport qui a dit non seulement les professions de la santé, mais aussi les professions à vocation économique. Alors, tout le monde qui exerce une profession, il y en avait déjà qui étaient organisés, par exemple, la Chambre des notaires, c'est la première, en 1847, suivie du Collège des médecins la même journée, quelques jours plus tard, le barreau, etc. Alors, le gouvernement du Québec, suite à ce rapport, a adopté une loi créant le Code des professions, qui est en soi une espèce de constitution de la loi constitutionnelle du monde professionnel du Québec qui fixe donc quels sont les critères, quelles sont les conditions d'exercice professionnel et aussi la mission que les divers ordres professionnels doivent s'acquitter et toujours dans le but de protéger l'intérêt du public. Donc, c'était une réforme assez audacieuse à l'époque parce que les ordres professionnels, je vais donner par exemple deux très connus, le Collège des médecins et la Chambre des notaires, à l'époque, c'était créé par les professionnels eux-mêmes et dans le fond, ils voyaient à leurs intérêts Bien sûr que la qualité des services et le fait qu'il fallait mettre la main au collet de quelques-uns des membres qui s'écartaient du droit chemin, mais ce n'était pas structuré strictement dans le cadre de la protection de l'intérêt public. Alors, c'est ce que le Code des professions est venu faire. Et pour, justement, s'assurer de l'application des lois professionnelles, mm-hmm. la loi crée également l'Office des professions, qui est donc mm-hmm. un organisme mm-hmm. gouvernemental mm-hmm. qui voit à ce que chaque ordre professionnel, il y en a une quarantaine, je pense 44 ou 45 actuellement, donc s'acquitte bien de son devoir. Et évidemment, le système est complété par chacun des ordres professionnels qui a une loi distincte. Donc là, on s'applique plus précisément au type de discipline. Donc, on divise ça en deux, le monde de la santé et les professions à vocation économique.
Bon, alors, les ordres professionnels accomplissent des missions. Mm-hmm. Alors, lesquelles? Comment?
Alors donc, la mission principale, c'est de s'assurer que les candidats qui accèdent à la profession ont reçu une formation suffisante et adéquate. D'accord. Également, les autres professionnels doivent voir à ce que les professionnels se forment régulièrement, donc mm-hmm. maintiennent à date. Et aujourd'hui, la plupart des autres professionnels au Québec imposent un certain nombre d'heures de formation annuellement ou aux 2 ans. Et surtout, le grand rôle des ordres professionnels, c'est d'assurer l'intégrité dans l'exercice de la profession. Alors si, par exemple, je parle d'un notaire qui aurait pigé dans son compte en fidéicommis pour régler des affaires personnelles, on comprend ici que c'est très grave.
Ça se fait pas, non.
Et on lui met la main au collet comme on voit tantôt, il y a tout un mécanisme, et on va le retirer de la circulation. Ça peut être le cas aussi d'un professionnel de la santé qui abuse d'un patient ou d'une patiente.
On a déjà vu ça.
Encore une fois, c'est une conduite hautement répréhensible. Mm-hmm. Alors, il y a deux types de professions. D'abord, l'ordre professionnel. J'en donne un à titre d'exemple, les ingénieurs. Mm-hmm. Donc, c'est un organisme à but non lucratif et qui est composé d'un conseil d'administration et d'un comité exécutif. On y reviendra. Et cet ordre professionnel fait partie d'un groupe à exercice exclusif. Donc, par exemple, non seulement le titre est protégé, mais aussi le geste professionnel.
Okay.
Par exemple, on ne peut pas poser des gestes d'avocat, de notaire, de comptable professionnel agréé, de médecin, d'infirmière, si on n'est pas membre de l'ordre.
D'accord.
Alors qu'il y a un deuxième groupe où ce n'est que le titre qui est protégé. Mmh. Alors, on pense ici aux travailleurs sociaux. Alors, si vous vous présentez comme travailleur social, vous devez être membre de l'ordre professionnel des travailleurs sociaux. Cependant, si vous êtes une intervenante sociale, donc vous posez des gestes d'un travailleur social, mais vous ne vous présentez pas comme un travailleur social, là, vous pouvez l'être sans être membre de l'ordre. C'est le cas aussi des physiothérapeutes, des audiologistes, des hygiénistes dentaires, etc.
Donc, vous
pouvez poser des gestes, mais vous ne devez pas prétendre au titre. Le titre étant, dans le fond, un gage de qualité. Alors, voilà, donc, c'est ainsi que c'est organisé.
Autrement dit, les ordres, et ça, on l'avait tous compris, c'est une protection pour le public.
C'est la mission principale.
Principale.
Je dis principale. Majeure et dans bien des cas essentielle. Les questions d'intérêt des membres sont laissées à des associations professionnelles qui se sont développées maintenant depuis les 50 ans que le Code existe.
Alors, si concrètement, parce que je voudrais savoir concrètement qu'est-ce que peut faire l'ordre. Si par exemple, quelqu'un se plaint de son dentiste, qui lui a fait n'importe quoi dans la bouche. Est-ce que l'ordre des professionnels, par exemple, des dentistes, peut... est-ce que ça peut aller jusqu'à la radiation de la personne?
Oui. Alors, si vous me permettez, j'aimerais peut-être venir un petit peu avant, parce que avant d'arriver à la plainte, donc à la discipline, c'est ce que vous faites référence, je voudrais mentionner que les ordres professionnels travaillent à deux niveaux pour assurer la qualité. D'abord, il y a l'inspection professionnelle. Et ça, c'est très important. Périodiquement, ça peut être annuellement, biannuellement ou trois ans, ça dépend des ordres et du nombre de membres. L'ordre professionnel envoie des professionnels, mais qui n'exercent plus, qui sont donc engagés par l'ordre professionnel pour aller faire inspection. Est-ce que les dossiers sont bien tenus?
Oui.
Est-ce que le cabinet, par exemple, et si on parle de quelqu'un, d'un professionnel de la santé, est-ce que l'intégrité du cabinet est assurée pour des fins de santé? Est-ce que c'est dans un endroit salubre? Est-ce qu'on assure la confidentialité? Par exemple, vous avez vu que les pharmaciens, depuis quelques années, ont un petit local fermé pour pouvoir recevoir les gens en consultation. Donc, ça aussi, c'est un élément que l'inspection professionnelle va regarder. Si je parle des notaires, il y a aussi une vérification très serrée de la comptabilité en fidécommis, pour des raisons bien évidentes. Notaires manipulent à peu près 65 milliards par année dans leur compte en fidécommis. Alors, on peut comprendre que s'il n'y avait pas des contrôles serrés, ça pourrait causer des problèmes assez sérieux. Et je dois dire que les notaires s'acquittent très bien parce que c'est assez rare qu'on entend parler d'un notaire a pigé dans la caisse. Alors donc, c'est l'inspection. L'autre volet, bien là, j'en viens à votre question, la discipline. Alors, la discipline, elle est, évidemment, on parle ici d'une possibilité d'une plainte. Cette plainte peut originer d'abord de l'inspection professionnelle dont je parlais, c'est-à-dire que l'inspecteur a vu qu'il y avait un manque, que les dossiers n'étaient pas bien tenu, que, par exemple, certains documents avaient été falsifiés après la signature. Là. Je parle, par exemple, d'avocats ou notaires, etc. Donc, on relève des accros sérieux et, à ce moment-là, on va transmettre au syndic une plainte. Ça peut être aussi le public qui est très insatisfait d'un service que son professionnel lui a rendu et dépose une plainte. Et donc, la personne qui reçoit ces plaintes et qui est chargée de voir à la suite, ça s'appelle le syndic. Et cette personne, elle est très protégée par la loi. Donc, par exemple, un dirigeant ne peut pas arriver puis dire au syndic, là, tu t'occupes d'un dossier que j'aimerais que tu t'occupes pas. Alors, s'il te plaît, laisse-le de côté. Syndic dit non, je le conserve. Ben voilà, on te donne ton bleu. Prendre une ancienne expression. Donc, on met le syndic à la porte. Eh bien, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Donc, on veut s'assurer que le syndic soit tout à fait libre d'entrave dans son action. Donc, une plainte, le syndic l'examine. Il peut arriver à la conclusion qu'il n'y a pas matière à porter plainte. Mais il peut également décider qu'il y a plainte. S'il décide qu'il n'y a pas lieu de porter une plainte, il informe le plaignant qu'il a un droit de recours au comité de révision. Alors, le plaignant peut dire, moi, je suis insatisfait de la décision du syndic. Je pense qu'il veut protéger son professionnel. Alors, à ce moment-là, je m'adresse au comité de révision qui regarde à nouveau le dossier. Et il arrive à l'occasion que le comité de révision puisse dire, ben nous, on pense que oui, il y a lieu de porter plainte. Alors, lorsque la plainte est décidée, on va de l'avant, que ce soit par le syndic ou le comité de révision. Alors là, on en entre dans un mécanisme très formel. Les avocats rentrent en jeu. Il y a signification de la plainte aux professionnels en cause. Il y a un procès disciplinaire. Donc, comme on voit tout autre procès, une preuve doit être faite par le syndic, comme quoi il y a eu un accro. Et s'il y a culpabilité, eh bien là, il peut y avoir une amende. Il peut y avoir une radiation et une amende. Évidemment, ça dépend de la nature de l'accro, du manquement et surtout du sérieux des conséquences néfastes pour les gens. Alors, ça peut aller très rarement à la radiation à vie. Autrefois, on n'en voyait plus, mais maintenant, les tribunaux ont réduit assez souvent ces décisions parce que je dois vous dire que tout ce mécanisme-là a aussi au-dessus, un tribunal d'appel qui est à la Cour du Québec. Donc, ce sont des juges. et qui peuvent, à l'occasion, renverser les verdicts.
La décision,
et
bien
la
sûr,
décision
bien
du sûr. Comité de discipline. Le comité de discipline est formé tout d'abord d'un président qui est nommé par l'Office des professions. Et généralement, il y a deux membres de la profession qui sont là pour apporter la connaissance sur la qualité et les standards de service que le professionnel doit respecter. Et donc, quand il y a une décision et qu'elle est à l'unanimité, parce que la plupart du temps, elles le sont, on peut dire qu'à la fois le droit et l'exercice professionnel, la qualité, a été jugé.
Le consommateur est-il bien protégé, oui ou non?
Oui.
On pense qu'il est très bien protégé parce que si on regarde les centaines de milliers d'actes professionnels au Québec, il n'y a pas beaucoup de plaintes.
Parfait. Maître Jean Lambert, vous adorez ça quand je vous appelle maître. Merci beaucoup d'être venu une fois de plus. Bonne fin de journée, les amis. À demain midi.